Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, une forêt millénaire partie en fumée. C'est comme ça qu'on appelait la charpente de Notre-Dame de Paris, intégralement détruite comme le toit de la cathédrale. Nous serons sur place dans un instant alors que l'incendie a été maîtrisé au milieu de la nuit. Cette nuit dont on se souviendra comme celle où Notre-Dame a brûlé. Pourquoi ? Les travaux de réfection en cours sont-ils en cause ? L'enquête le déterminera, on en parlera. Évidemment, comme de la reconstruction, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Promesse d'Emmanuel Macron, une souscription est lancée. Le chantier s'annonce faramineux. Et puis ce matin, sur les décombres du toit de Notre-Dame, on le verra, c'est aussi la trêve politique. 7-9 spécial, Nicolas. Gros plateau d'invités dans ce studio à 8h20.
Oui, la maire de Paris, Anne Hidalgo, le recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris, Monseigneur Patrick Chauvet. Plus tard au téléphone, Christian de Port-Zampart, grand architecte français, Michel Zinc, médiéviste, Stéphane Bern, quelques mots également au téléphone, et Guillaume Gallienne viendra nous lire des extraits de ce livre magnifique de Victor Hugo qui s'intitule, vous le savez tout simplement, Notre-Dame de Paris. Intervenez, témoignez, 01 45 24 7000, le standard d'Inter est ouvert.
Dans le reste de l'actualité, le procès Mera et l'heure du réquisitoire, et puis le statut des conseillers techniques et sportifs. Ces entraîneurs du service public, réunion tendue dans le bureau de la ministre des Sports aujourd'hui.
France Inter.
Elle est debout ce matin, elle trône toujours au centre de Paris, au point zéro des routes de France. Mais dans quel état Notre-Dame de Paris et ses presque 1000 ans d'histoire, ravagée par les flammes du terrible incendie qui a stupéfié le monde entier cette nuit? On en retiendra deux images, celle de la flèche qui s'effondre, évidemment, c'était un peu avant 20h, et cette gigantesque croix de feu vue du ciel, photo du toit de la cathédrale en fusion dans la nuit parisienne. Ce matin, le jour s'est levé sur le sinistre. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Vous êtes devant Notre-Dame de Paris. L'incendie, Julie, est désormais maîtrisé.
Maîtrisé, mais sous surveillance. Il y a eu plusieurs petits départs de feu ce matin et les pompiers sont toujours au travail, en repérage dans les tours de la cathédrale et avec de l'eau toujours projetée par de puissantes lances dans la zone qui a brûlé hier soir et cette nuit. La façade principale semble de loin intacte. Les tours ont tenu et les passants, comme Anne, se disent soulagés.
Je suis contente de l'avoir debout, c'est quand même très rassurant. Et puis, elle est toujours à la fois tendre et imposante. Voilà, elle a les deux, toujours blanche. Donc, on est heureux quand même.
Cette façade blanche comme préservée et trompeuse, la flèche de la cathédrale, vous le disiez, 93 mètres de haut, n'est plus. Elle a plié avant de s'effondrer hier soir. La précieuse charpente de bois a brûlé et il faut encore attendre pour savoir ce qui a résisté, explique Bertrand de Feydeau, vice-président de la Fondation du patrimoine, déjà là pour récolter des fonds pour la reconstruction.
Nous ne le savons pas, mais vous savez, en cas d'incendie, vous avez ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. On voit bien que la toiture a disparu. Mais un incendie comme ça, avec un brasier aussi gigantesque, élève la température à des niveaux considérables et ça met en péril tous les matériaux, c'est-à-dire non seulement la pierre, mais bien sûr les vitraux, éventuellement l'orgue.
L'orgue majestueux aux 8000 tuyaux. Ce qui a été sauvé, Florence, de façon sûre, la couronne d'épines, relique trésor, qui selon la tradition chrétienne était posée sur la tête du Christ au moment de la crucifixion. Cette couronne vénérée chaque jour par les catholiques pendant la Semaine Sainte.
Et est-ce qu'on en sait plus, Julie, sur ce qui a été détruit?
Sur ce qui a été détruit, vous l'avez dit, la charpente avec ses troncs de bois majestueux. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'orgue et puis également sur l'état des tableaux. On sait encore en fait très peu de choses sur ce qui a été détruit à l'intérieur du bâtiment.
Julie Pietri, merci, en direct de Notre-Dame de Paris. Et toute la soirée hier, des Parisiens et des touristes ont scruté des heures durant cette cathédrale en flammes. Stupeur générale au bord de l'île de la Cité. Cette étudiante raconte comment tout s'est figé dans la bibliothèque où elle travaillait avant de venir contempler le désastre.
En l'espace de quelques minutes, tout le monde s'est arrêté de parler, arrêté de bouger, arrêté de travailler. Et tout le monde était juste ultra choqué. Je suis sortie de mon université, j'ai vu juste l'énorme vague de fumée. Bien qu'aujourd'hui on soit un pays laïque, ça représente le catholicisme, ça représente comment l'État français s'est construit. C'est des siècles et des siècles de construction d'esprit, de société. C'est bizarre, c'est très triste.
Notre-Dame, d'où 9 siècles d'histoire nous contemple. C'est aussi, à chaque fois que la France vit une épreuve, un lieu de communion nationale. C'est donc plus qu'un lieu de culte pour l'archevêque de Reims, dont la cathédrale avait été détruite pendant la Première Guerre. Éric Moulin-Beaufort est aussi, depuis peu, le président de la Conférence des évêques de France.
C'est une partie de notre cœur, de notre chair. Je me souviens encore de l'émotion de tout le monde quand le bourdon de Notre-Dame a sonné pour eux après les attentats à Paris. La foule qui était rassemblée autour de la cathédrale, ou bien les messes qui ont été célébrées, notamment après la mort du père Hamel. Il y a eu des moments de très grande intensité dans notre histoire. On sait aussi l'importance du Magnificat de la Libération. Enfin, il y a tellement d'événements, et puis Notre-Dame, c'est tellement la chair de Paris, sa flèche qui dépasse de tout, qui dépasse des toits, c'est toute une part de notre imaginaire à tous, donc c'est vraiment très très triste. Un monument qui est tellement surveillé, tellement protégé, qui est tellement bien accompagné quand même par tous les services de l'État en particulier, qu'on pouvait espérer qu'un accident de cet ordre-là n'arrive pas.
Éric Moulin-Beaufort avec Frédéric Carbone. Mais hélas, ce qui ne devait pas arriver arriva, un incendie, comme on a connu la cathédrale de Nantes en 72. C'est un chalumeau oublié par un ouvrier qui l'avait ravagé. Est-ce le même scénario qui s'est répété à Paris? On n'en sait rien pour l'instant, si ce n'est qu'il y avait des travaux là aussi. C'est donc cette piste accidentelle qui est privilégiée pour l'instant, Philippe Deniau.
Oui, mais il est extrêmement prématuré de confirmer cette première hypothèse. Et l'enquête forcément longue a été confiée aux policiers, aux experts les plus expérimentés, comme l'indique ce matin le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez.
Sur l'enquête, il faut être extrêmement prudent. Donc le procureur de la République de Paris, il l'a dit lui-même hier, il a saisi la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, de la préfecture de police. Donc voilà, les auditions sont en cours, il y avait des travaux, donc forcément il y a des auditions. Mais très honnêtement, on ne peut pas se prononcer, les causes de cet incendie ne sont pas connues pour l'instant. Des investigations sont en cours.
Les ouvriers ont donc été immédiatement interrogés hier soir et cette nuit, mais la grande difficulté sera de retrouver dans les cendres la certitude de ce qui a déclenché cet incendie. Dans un sinistre traditionnel, les experts parviennent assez rapidement à retrouver les traces d'un départ de feu, qu'il soit accidentel ou criminel. Ici, peut-être ne saura-t-on jamais l'origine précise de l'incendie, et c'est un élément pourtant essentiel pour établir, même si l'hypothèse accidentelle se confirme, pour établir les responsabilités éventuelles. Y a-t-il eu des négligences dans le respect des consignes de sécurité, des failles dans le dispositif de protection du chantier ou des erreurs dans l'emploi de certains engins ou de certains matériaux? Et derrière ces questions, bien entendu, on devine l'ampleur des enjeux financiers qui seront peut-être un jour débattus en justice.
Jean-Philippe Deniau, chef du service police-justice de France Inter. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. C'est Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Une cicatrice fraîche et béante ce matin. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, a déclaré Emmanuel Macron dans la nuit sur le parvis. Une collecte nationale sera lancée aujourd'hui. Et l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, demande à ce que Notre-Dame soit classée trésor national. Voilà qui permettrait, dit-il, d'encourager les dons des mécènes.
Le désastre est immense, c'est un désastre patrimonial, un désastre symbolique. Mais aujourd'hui, il faut se retrousser les manches, il faut mettre en œuvre très rapidement la restauration de cette cathédrale auquel la France est tant attachée. Et donc pour ma part, j'invite le gouvernement, j'invite même le président de la République à prendre toutes les mesures pour que toute la générosité publique puisse être mobilisée en faveur de la restauration de la cathédrale. La loi de 2003 sur le mécénat que j'ai fait voter à l'époque où j'étais ministre de la Culture prévoit une réduction d'impôt de 90% pour les dons faits en faveur de l'acquisition par les musées de trésors nationaux. Il faut que la cathédrale de Paris soit décrétée trésor national et que tous les dons qui seront faits par les particuliers, par les entreprises, en France, à l'étranger, bénéficient de cette réduction majeure de 90% d'impôts, de façon à ce que les crédits soient rapidement mobilisés et que la restauration se fasse aussi rapidement que possible.
Et avant même le lancement de cette souscription nationale dont on parlait, la famille Pinault annonce un don de 100 millions d'euros. Pinault, c'est le groupe Kering qui possède Gucci, Saint-Laurent et Boucheron notamment. La région Île-de-France, à l'instant, annonce le déblocage de 10 millions d'euros d'aide d'urgence. Et puis l'UNESCO l'UNESCO propose de mettre ses équipes à disposition pour évaluer les dommages et organiser la solidarité internationale. 30 000 visiteurs chaque jour passaient entre ces murs, 12 millions en 2017. L'émotion devant ce vaisseau de pierre en flamme a fait le tour du monde. Les images de la flèche qui tombe, reprises par toutes les télévisions, des images qui font mal, a dit la chancellerie à Berlin. Des scènes déchirantes pour le maire de Londres et tragiques pour les Américains. Donald Trump a évidemment tweeté conseillant l'utilisation de Canadair hier soir. La sécurité civile lui a répondu que ça risquait de fragiliser la structure de la cathédrale. En France, il y a comme un air de concorde nationale depuis hier soir. Les politiques à l'unisson ont fait taire les petites phrases et la campagne des européennes dans le sillage d'Emmanuel Macron qui s'est effacé, Yael Gauze, alors qu'il devait annoncer ses décisions après le grand débat national.
En pleine campagne des européennes devait démarrer l'autre campagne, celle de l'acte 2 du quinquennat. Ce soir à 20h, je vous réponds, avait tweeté Emmanuel Macron. À 19h40, il annule tout. L'allocution de 28 minutes, enregistrée une heure plus tôt, ne sera pas diffusée comme prévu. Il faut dire que l'émotion est forte, nationale et internationale, de Donald Trump à Laurent Wauquiez, d'Angela Merkel à Jean-Luc Mélenchon, qui dès le début de l'incendie réclame un temps de pause politique.
Moi j'ai souhaité que le président se taise, il le fait, je l'en remercie. Pour l'instant, nous sommes en deuil.
La trêve aussi au Rassemblement National. Nicolas Bay rentre de Strasbourg, où Marine Le Pen présentait son projet pour les européennes.
Il est indispensable, dans ce moment terrible, d'être capable aussi d'arrêter le temps politique et le temps électoral.
Notre-Dame, monument d'union nationale. À 23h40, Emmanuel Macron est sur le parvis, au milieu des camions-citernes, pour mettre des mots sur ce drame national.
Elle brûle, et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Nous avons su l'édifier et à travers les siècles, la faire grandir. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble.
L'histoire d'un destin français, conclut le président, ému, qui respecte un délai de décence avant de pouvoir à nouveau présenter son plan de sortie du grand débat.
Yael Gauze, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de cet incendie et de ses conséquences.
Et on y revient évidemment avec nos invités de 8h20 à 9h. Il est pour l'instant 8h12 dans le reste de l'actualité. Florence, le procès Mérat.
Il entre aujourd'hui dans sa dernière ligne droite après les plaidoiries des partis civils. C'est le moment des réquisitions du parquet avec un enjeu important, celui de savoir si Abdelkader Mérat a été complice des tueries de son frère. Ce n'a pas été retenu contre lui lors du premier procès. Corinne Audouin, pour les partis civils, cette complicité ne fait pourtant aucun doute.
Pendant deux jours, les avocats des partis civils ont égrené les arguments en faveur de la complicité. Francis Spinner, nouveau dans l'affaire, pense avoir trouvé la preuve de la présence d'Abdelkader Mérat lors de l'assassinat du militaire Imad Ibn Ziaten. C'est une phrase enregistrée sur la vidéo de ses crimes où Mohamed Mérat mentionne son frère. Au-delà de la quête de la preuve ultime, les avocats des partis civils ont rappelé les éléments du dossier, la radicalisation religieuse d'Abdelkader Mérat, son rôle de mentor auprès de son jeune frère, le vol du scooter, leur rencontre avant et pendant les crimes, la propagande djihadiste retrouvée chez Abdelkader Mérat. Il est entré dans la tête de Mohamed Mérat, il est devenu sa conscience, a plaidé Simon Cohen, au terme d'un procès guidé par la raison. C'est ce qu'a ressenti Samuel Sandler, père et grand-père de victimes de Mohamed Mérat.
Cette fois-ci, il y a moins d'émotions et c'est plus juridiquement technique, quoi. J'espère au premier procès, j'espère que cette fois-ci, oui. Oui, parce que les militaires, mon fils, la petite Myriam et mes petits-enfants, hein, ils ont eu la perpétuité, ils n'ont pas le choix. Ils ont été exécutés pour toujours.
Les deux avocats généraux vont à leur tour livrer leur lecture du dossier en espérant cette fois emporter la conviction des magistrats.
Clap de fin pour Jean-Marie Le Pen au Parlement européen. Ce sera la dernière séance du fondateur du Front National à Strasbourg où il prendra la parole aujourd'hui dans un Parlement auquel il doit 300 000 euros de remboursement pour les salaires versés à ses assistants. Emploi fictif présumé. Et puis au ministère des Sports, ce matin, il va y en avoir du sport. Réunion entre les syndicats et la ministre Roxana Maracineanu, alors que les conseillers techniques sportifs doivent changer de statut, ne plus être fonctionnaires payés par l'État et devenir des employés des fédérations. Pour eux, c'est tout simplement l'avenir du sport français qui est en jeu, comme l'a expliqué un de ses conseillers à Fanny Lechevestrier.
Laurent Froy, une des responsables du pôle espoir d'athlétisme de Fontainebleau, son travail, entraîner de jeunes athlètes, mais pas seulement.
J'ai également la gestion du suivi scolaire. Aussi, il y a un internat ici, donc S'il y a eu un problème le soir à l'internat, bah, je vais essayer de le gérer au mieux le lendemain.
Cadre d'État depuis 10 ans, il gagne 2 200 € par mois. L'une de ses craintes, qu'à l'avenir et malgré des compensations financières promises par le ministère, les fédérations n'aient plus les moyens de former les futurs champions.
En athlétisme, mon entraîneur de Jimmy Vico, Renaud Lavinelli, l'entraîneur de Kevin Mayer, ce sont quand même des grands noms de l'athlétisme, bah, ce sont des collègues qui les entraînent. Quand il fallait les former, je ne suis pas sûr qu'ils avaient les moyens financiers de pouvoir se payer des entraîneurs.
Pour lui, voir basculer les conseillers sportifs vers le privé pose également la question de l'intérêt général.
Quand vous êtes cadre d'État, vous appliquez une politique publique. Mon statut de fonctionnaire aujourd'hui, il me permet de dire au président de Ligue, si un jour je ne suis pas d'accord avec lui, je vais lui dire. Les fonctionnaires, ils garantissent que ces subventions soient bien utilisées et pas pour aller prendre un resto.
Et de conclure.
Moi, j'ai pas envie que demain, on se transforme comme le modèle américain. Après un certain âge, c'est plutôt les classes sociales favorisées qui pratiquent une activité physique.
Tout cela, ajoute-t-il, à 5 ans de ce qui doit être la fête du sport en France, les Jeux Olympiques 2024.
Et dans 5 ans, où en sera le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris? On y revient. Aura-t-il retrouvé ces grandes orgues dont on redoute qu'elles aient été endommagées? Il y en a 3, dont un particulièrement impressionnant, avec ses 5 claviers et ses 8000 tuyaux. Chérie Isabelle Pasquier, par ceux qui ont eu la chance d'avoir pu poser leurs doigts dessus.
Cet orgue, c'était la voix de Notre-Dame de Paris, c'était son âme, une voix qui ne sera plus jamais la même. L'un des organistes, Olivier Latry, vient d'enregistrer ses compositions de Bach dans la cathédrale. C'est donc le dernier témoignage du son de la voix de Notre-Dame. Bien sûr, les organistes sont sous le choc, parmi eux Philippe Lefebvre, organiste à Notre-Dame depuis 34 ans.
Je suis comme beaucoup effondré, muet, devant quelque chose qui est incommensurable, parce que Notre-Dame, c'est une part de nous-mêmes, on est muet d'effroi.
L'orgue de Notre-Dame, l'orgue le plus célèbre du monde, avec son son qui touche au divin, 8000 tuyaux et 115 boutons. À la Révolution, l'orgue a été sauvé de justesse.
Au moment de la Révolution, les révolutionnaires faisaient le tour de toutes les églises de Paris pour récupérer les tuyaux d'orgue qui sont en métal pour fabriquer des canons. Et donc l'organiste, quand il a vu arriver les révolutionnaires, eh bien, il a entonné la Marseillaise et du coup tout le monde était content et l'orgue a été préservé.
L'orgue de Notre-Dame de Paris, c'est lui qui pendant plusieurs siècles a fait chanter ses pierres.
Voilà ce grand orgue qui a probablement été endommagé, c'est ce que nous a dit le ministre de la Culture Franck Riester tout à l'heure.
Oui, merci Florence Paracuelos.